dessin, série. Chronique du dessin, série. Bonjour à toutes et à tous et meilleurs vœux pour cette année 2024. Pour cette première chronique, évoquons quelques très grands noms de la bande dessinée, personnages comme Tintin, Gaston, Astérix et Lucky Luke. Quels sont les devenirs de ces séries remarquables ? Pour Tintin, c'est simple, Hergé ayant catégoriquement refusé que son personnage soit repris, les éditions Moulinsart éditent Le Patrimoine et les archives, dernière en date, Les Bijoux de la Castafiore avec la version du journal Tintin. Franquin a créé Gaston en 1957. Il avait repris Spirou de Jigé, mais avait cédé la série à Fournier en 1968. Franquin est décédé en 1997. Il n'y avait donc eu pas de nouveau Gaston, seule une réorganisation de la série qui avait intégré un certain nombre d'inédits. Il y a eu une affaire judiciaire entre Isabelle Franquin, la fille du créateur de Gaston, et les éditions Dupuis. Isabelle Franquin arguant que son père ayant toujours dit qu'il ne voulait pas que son personnage soit repris, les éditions Dupuis ont fait valoir un article dans un contrat qui permettait et qui donnait la possibilité à Dupuis de faire un nouveau Gaston. Delaf va reprendre les éléments de la série, les inventions, les animaux, la mouette, le chat, le chaos provoqué par les apparitions de Gaston, les personnages de Prunelle, de Demesmaker, de Mademoiselle Jeanne, et même de Fantasio et du Marsupilami. Le dessin est proche de celui de Franquin, puisque Delaf affirme avoir fait une sorte de catalogue de l'ensemble des attitudes de Gaston tout au long des histoires de Franquin, ainsi que celle des différents personnages. Mais il y a dans la série un changement d'esprit, des décalages, pas très importants, mais suffisamment pour que la lecture s'en trouve perturbée. Une exagération, une outrecuidance, une façon de perturber les relations entre les personnages, de tenter de les amener dans d'autres directions, mais souvent, ça coince, ça ne marche pas. La relation ainsi entre Gaston et Mademoiselle Jeanne perd de sa candeur pour être dans une situation plutôt ridicule. Il y a donc une difficulté certaine à reprendre un personnage humoristique et notamment celui de Franquin qui a tellement personnalisé son humour et qui lui a donné toute sa dimension intime. Le reprendre, un casse-tête, et la lecture de ce 22e nous fait souhaiter plutôt que ça en reste là. Astérix est un personnage dont la situation est différente, puisque René Goscinny, le scénariste, est décédé en 1977. Albert Uderzo va poursuivre la série en tant qu'auteur complet, et jusqu'en 1997, il va faire 6 albums. Jean-Yves Ferry au scénario et Didier Conrad au dessin vont reprendre la série Astérix et 5 nouveaux albums vont paraître depuis 2013. Et puis, Ferry souhaitant faire une pause, eh bien, c'est Fab Caro qui va reprendre le personnage, se l'approprier, lui rendre hommage et se mettre dans l'esprit de la série. Le récit. L'Iris Blanc, le titre de ce dernier Astérix, ce 40e Astérix, est une école de pensée positive venue de Rome et se propage dans les grandes villes. L'effet bénéfique sur les camps romains est patente et César va donc décider de l'appliquer sur le village gaulois. Vice et vertu, le Romain arrive dans le village des irréductibles pour les initier à la pensée positive. Le dessin de Conrad est tout à fait dans l'esprit et gère avec une efficacité la mise en image de l'histoire dans la continuité du Derzo. Fab Caro va reprendre donc des récits complets, chaque histoire se développant sur 46 pages, eh bien, va permettre aux scénaristes de déployer avec plus d'efficacité parce qu'il reste des espaces narratifs dans cette série et cet Iris Blanc en est une preuve patente. Il y a un scénariste qui vient de l'underground, qui a exploré tous les genres narratifs pour se les approprier, les décaler, avec un succès important, le Zai 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 Zai, un titre qui a connu un très grand succès, une adaptation, des adaptations théâtrales et une adaptation cinématographique. Il va donc reprendre Astérix dans l'esprit de Goscinny, avec le rythme du quatre-bande, une façon d'utiliser les dialogues très vifs, de mettre des éléments du présent dans l'époque romaine, qui était un des points forts de Goscinny. Par exemple, Obélix, Astérix et Abraracoursix arrivent à Lutèce et vont manger au restaurant. Obélix commande la suave mélodie de sangliers virevoltante dans leur écrin forestier de printemps radieux, et lorsque le patron amène les plats, les mélodies pour les trois jeunes gens sympathiques. « Ah, ça me va aussi, » dit Obélix. « Et belle dégustation !» Obélix, « Excusez-moi, sans faire exprès, vous avez mis la mélodie, mais vous avez oublié le sanglier. Effectivement, il y a juste un peu de nourriture au centre de l'assiette. Du coup, ça virevolte pas trop. Ah, vous venez de province, c'est ça. Eh bien, je vous présente la nouvelle cuisine. Oui, mais moi, je vais prendre plutôt de l'ancienne, s'il vous en reste. Des gens importants de toute la Gaule viennent ici. Et après, ils vont manger où ? On est tout le temps, tout au long de cette histoire, dans cet esprit, dans cet humour qui a fait une des grandes forces de la série. Et puis il y a un comique de situation que Fab Caro met remarquablement en œuvre et permet ainsi de modifier quelques relations entre les personnages et leur positionnement. Et par exemple, sous l'influence de la pensée positive, Ordre Alphabétique, le poissonnier, Set Automatix, le forgeron vont changer et se décaler par rapport à l'emploi qu'ils avaient pu avoir jusqu'à maintenant. Il y a une scène mémorable qui est Obélix devant utiliser une trottinette. C'est tout simplement remarquable. J'en ai éclaté de rire. Il y a donc vraiment, et c'est la grande force de scénaristes comme Jean-Yves Ferry ou Fab Caro, cette capacité à trouver de nouveaux espaces narratifs, de permettre aux personnages de les explorer et ainsi de s'épanouir, de se déployer encore un peu plus. On est vraiment, grâce à la qualité de l'intrigue et de l'écriture, dans l'esprit vraiment de Goscinny et Uderzo. Lucky Luke est un autre cas particulier puisque il y a une collection hommage à Lucky Luke faite par les auteurs où le principe n'est pas simplement de prendre une reprise, de faire une reprise et de se mettre dans un esprit graphique et narratif de départ. Les auteurs de cette collection hommage vont témoigner de leur attachement aux personnages de Maurice et Goscinny. Après Mathieu Bonhomme, Guillaume Bouzard, Mal Will et Ralph Koenig, c'est Blotch qui a su à son tour s'approprier l'homme qui tire plus vite que son ombre. L'idée n'est pas un copier-coller graphique, mais vraiment de reprendre l'esprit du personnage avec sa propre écriture dessinée. Pour Blotch, Lucky Luke est une référence absolue, une source. Il aime à dire qu'écolier, il a fait Lucky Luke première langue. L'auteur confronte le cow-boy solitaire à deux gosses turbulents et imprévisibles, d'où le titre « Les Indomptés ». Rose est une fille à la gâchette facile et Casper, un garçon plutôt affamé et franchement contrariant. Dans un rôle de nounou inédit, Lucky Luke va chercher des soutiens, essayer de confier les garnements, passer ainsi le relais, mais sans succès. C'est l'occasion pour Blotch de constituer une galerie de personnages réjouissantes, tout à fait dans l'esprit de Goscinny. Blotch met vraiment ses pas dans ceux de Goscinny. Il va reprendre le découpage en quatre bandes, tout comme Fab Caro et Jean-Yves Ferry l'avaient fait pour Astérix, sans bavardage, avec un rythme vif, de nombreux rebondissements, des ellipses, un sens affûté du récit. Blotch, comme ses prédécesseurs dans cette série d'hommages, prouve qu'un tel personnage a encore des terrains inconnus où les situations lui échappent. Lucky Luke n'en sort nullement affaibli, bien au contraire, il reste avec John Lee Jumper, un héros intègre dans un Far West toujours aussi calamiteux. Blotch joue avec jubilation avec le répertoire de la série. Les panneaux d'entrée de ville, les shérifs paresseux, les danseuses de cabaret au grand cœur, les commentaires de Johnny Jumper, la rapidité de Luke au tir et la bagarre du saloon qui était un terrain de jeu où Maurice excellait. Il y a dans Les Indomptés, bien sûr, des bagarres de saloon, dont une tout aussi mémorable. Blotch est un dessinateur qui adapte son style en fonction des projets narratifs. Son découpage, son cadrage donnent déjà une efficacité au récit. Et son trait de pinceau va rester au plus près des corps, au plus près des gestes, avec vraiment l'esprit de la série. Sans être avec le même style graphique, il y a vraiment un décalage, mais une proximité également, il va garder ce qui est une des très grandes forces de Maurice, c'est l'ironie de son dessin. Lucky Luke est une série un peu particulière parce que Maurice avait toujours refusé que Goscinny fasse des jeux de mots comme il faisait avec le personnage d'Isnogood où là ils étaient très nombreux, ou dans Astérix on a quelques jeux de mots remarquables, mais Maurice s'était beaucoup plus cantonné à des comiques de situation. Blotch reprend vraiment l'esprit de la série, ne s'aventure pas plus vers ces jeux de mots, mais reste dans le répertoire imaginé par Goscinny et Maurice. Et Les Indomptés est tout simplement un sommet. Les trois titres de cette chronique, Le retour de la gaffe, de Delaf, d'après Franquin, c'est publié par les éditions Dupuis, les 46 pages sont au prix de 12,50 €. Et ce 22e titre a été tiré à 800 000 exemplaires. Astérix, l'Iris blanc de Didier Conrad et Fab Caro, d'après Uderzo et Goscinny, est publié par les éditions Hachette et les 48 pages sont au prix de 10,50 € et le 40e Astérix a été tiré à 2 millions d'exemplaires. Lucky Luke, les Indomptés de Bloch, d'après Maurice et Goscinny, est publié par les éditions d'Argot et les 48 pages de ce titre sont au prix de 13 €. Les trois titres ont été imprimés en France et nous finissons en musique avec Ennio Morricone.